Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
On continue de répondre cette semaine à toutes les questions que vous voulez poser à Étienne Gis. Bonjour à vous, Étienne Gis.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du métier, entre guillemets, de secrétaire perpétuel. Là, on a pas mal de questions...
Et du rôle de l'Académie des sciences.
Et du rôle de l'Académie des sciences. Aujourd'hui, on a pas mal de questions sur l'utilité de la science dans la société. On voulait commencer avec une question qu'on s'est déjà tous posée. Aujourd'hui, c'est Lucas, qui travaille dans l'aide sociale, qui vous la pose. Il se demande à quoi ça sert de transmettre la science à des gens qui ne sont pas des scientifiques. Et il va même aussi plus loin. Pourquoi l'enseigner, cette science, dans les classes populaires ?
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie.
C'est une vraie question qui est compliquée, parce que la science n'est pas toujours facile. Le danger est grand que les scientifiques disent « ça ne vous regarde pas ». On ne peut pas vous expliquer, nous on sait, vous ne savez pas. C'est une vraie question. Une grande partie de la science d'aujourd'hui nécessite des études, des réflexions, etc. Mais je pense que ça serait une erreur grave, catastrophique, si les scientifiques refusaient de communiquer, y compris avec ce que mon interlocuteur appelle les classes populaires. Et il a bien raison de poser la question, parce que on voit bien autour de nous que les classes populaires, je comprends ce qu'il veut dire, les classes populaires n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre la science qui est produite aujourd'hui.
Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tous les scientifiques n'ont pas le devoir de transmettre la science. Certains d'entre eux ont ce devoir. Ceux qui ont envie de le faire peuvent le faire, mais il ne faut pas critiquer un scientifique parce qu'il ne le fait pas. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que toute la science n'est pas non plus transmissible parce qu'elle est en effet parfois très difficile. Et puis le troisième point, c'est qu'un scientifique qui a envie ou qui souhaite faire ce qu'on appelle de la vulgarisation ou de la diffusion, il n'est pas obligé de le faire pendant toute sa carrière. Il y a des scientifiques qui le font au début de leur carrière, d'autres au milieu de leur carrière et d'autres à la fin de leur carrière. Je pense qu'il faut laisser à chacun cette liberté de s'adapter en fonction de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire. Il y en a qui ne peuvent pas le faire du tout, il y en a qui peuvent le faire un peu. Je pense qu'il faut respecter tout ça. Et puis, il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que parfois, quelques très, 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 très grands scientifiques, Poincaré, toujours Poincaré. C'est intéressant, j'ai vu un article d'Histoire qui a regardé un peu au cours de la carrière de Poincaré quelle était la proportion de ses articles de diffusion, parce qu'il en a écrit beaucoup, en fonction de son âge. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que toute sa vie, depuis ses tout débuts, quand il avait à peine 20 ans, jusque sa mort, à 58 ans, il a toujours fait autant d'articles de diffusion. Et en fait, on peut comprendre, et c'est quelque chose que je ressens personnellement très fort, on peut comprendre que ce travail de diffusion, il est utile pour la recherche du bonhomme. C'est-à-dire qu'en faisant cette réflexion, comment je vais expliquer aux classes populaires ceci ou cela, ou même aux enfants, Poincaré a écrit des articles sur comment on explique l'astronomie aux enfants. Donc tout ça, c'est, à mon avis, c'est aussi important en retour pour la carrière purement scientifique du chercheur. Donc voilà, ça doit se faire, c'est obligatoire, sinon la science va se déconnecter du reste de la population. C'est déjà pas mal fait. Il faut absolument qu'on fasse des efforts.
Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m.
On a une deuxième question d'un maraîcher, Marius, qui a 25 ans, qui lui voudrait avoir des exemples concrets d'utilisation de la science dans notre quotidien.
C'est intéressant aussi, toutes les questions sont intéressantes. En fait, il pose des questions de savoir si la science doit être applicable immédiatement dans le quotidien. Et la réponse est non. Il y a énormément de choses dans la science qui auront des conséquences dans la vie quotidienne, mais peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans un siècle. Si on regarde les choses qui modifient notre quotidien aujourd'hui, par exemple en physique, il est évident qu'elles ont mis très très longtemps avant d'être élaborées. Prenez un exemple très simple. Prenez le GPS, par exemple. Alors, est-ce qu'on en a besoin pour vivre ? Ben, on n'a qu'à dire que oui, mais le GPS, il a fallu d'abord qu'au milieu du 19e siècle, de très grands mathématiciens réfléchissent à la géométrie d'Euclide. Est-ce que c'est la seule géométrie possible ? Et puis, il a fallu que Gauss soit suivi par Riemann. Et puis, bien plus tard, c'est Einstein qui arrive donc au début du XXe siècle, qui bénéficie de tous ces travaux des scientifiques du milieu du XIXe siècle pour faire la théorie de la relativité. Théorie de la relativité d'abord restreinte, puis générale, 1915. Pendant tout ce temps-là, il n'avait pas en tête le GPS. Et il a fallu attendre très récemment pour qu'on comprenne que de la théorie de la relativité généralisée, celle de 1915, est indispensable. Sans ça, on ne peut pas faire fonctionner le GPS. Donc oui, ça sert dans le quotidien. Mais oui, ça a mis très, très, très longtemps. Et oui, encore, ça a été fabriqué, conçu par des gens qui n'avaient pas ça en tête quand ils l'ont fait. Et il faut donc permettre à des scientifiques de travailler sans avoir en tête en permanence l'application concrète dès le lendemain. Alors ça, c'est ce que les politiques ne comprennent pas. Il faut permettre à des scientifiques de faire des choses qui ne servent à rien. Mais attention,
au départ,
mais on ne va pas les évaluer 100 ans plus tard.
C'est un investissement de très longue
haleine.
Voilà. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
J'aime beaucoup la troisième question de Jonathan, qui est menuisier. Qui vous dit ça. Le moulin, ça a donné le féodalisme. Le chemin de fer, ça a donné le capitalisme. Alors la fusion nucléaire, ça donnera quoi ?
Alors c'est une question un peu violente. Parce que, à mon avis, il y a un peu de mauvaise compréhension dans cette formulation. Il laisse entendre que c'est le moulin qui a créé le féodalisme, que c'est le chemin de fer qui a créé le capitalisme. C'est aller bien vite en besogne, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et on peut dire que le capitalisme et le chemin de fer se sont développés simultanément. Est-ce que l'un est la cause de l'autre ? Je ne crois pas qu'on puisse le dire avec tant de force. Tout ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il est évident que le développement scientifique au XIXe siècle, hein, tout le développement de l'ère industrielle est bien sûr, concomitante avec le développement de la science. C'est évident. Maintenant, est-ce que c'est à cause de la science qu'on a eu les débordements du capitalisme ? Je pense que c'est allé trop vite en besogne. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que si on regarde avec un tout petit peu d'objectivité, on peut quand même dire, en dépit de toutes les catastrophes dont la science a été complice, en dépit de toutes les guerres et tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles, on n'a qu'à dire, il me paraît clair que les êtres humains en 2025 vivent plutôt mieux qu'en 1805. Hein ? Il y a eu des tas de catastrophes, on mange mieux, la médecine rallonge notre vie.
Oui, l'espérance de vie quand même.
L'espérance de vie a augmenté, même l'espérance de vie en bonne santé. Donc, d'une certaine manière, je ne veux pas dire la science, c'est merveilleux. Non, la science a fait beaucoup d'erreurs, elle a été concomitante avec beaucoup de catastrophes. Mais quand même, grâce à la science en particulier, les êtres humains vivent mieux, me semble-t-il.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle.
Une autre question, Jonathan, qui dit il y a une fissure entre les politiques et la vraie vie. Comment pourrait-on modifier cela ?
L'idée que j'ai, c'est qu'il a raison, que c'est un peu dommage. On ne peut que constater que le monde politique aujourd'hui semble déconnecté de la science plus que jamais. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on regarde, par exemple, je ne vais pas dire du bien de Napoléon, mais il est évident que pendant le Premier Empire, il y avait un grand nombre de scientifiques qui étaient au pouvoir, qui étaient non seulement consultés, mais qui étaient ministres, qui avaient des choses à dire et qui ont fait des choses. On pourrait faire une longue liste de contributions des scientifiques à la vie politique que lors de l'Empire. Et il y a un exemple avant l'Empire, même lorsque Napoléon, Bonaparte, est parti pour l'expédition en Égypte. Il y a un tableau assez célèbre où on voit sur le pont du bateau, on voit Bonaparte en train d'écouter une conférence de science qui est faite par, je ne sais plus si c'est Monge ou un autre scientifique avec lequel il est parti. Donc on voit une conférence de science sur le pont. Alors il est entouré par des scientifiques et un peu plus loin, on voit tous les militaires, les généraux, etc., qui sont armés avec leurs sabres, etc. Et on voit que les généraux ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils auraient préféré qu'on parle de la guerre plutôt que de parler de la science. C'est pareil que précédemment, il ne faut pas en conclure que je félicite Napoléon pour tout ce qu'il a fait, mais il est vrai que pendant une bonne partie du 19e siècle, les scientifiques ont été au pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Si on regarde le gouvernement aujourd'hui ou demain, nos gouvernements ne contiennent que très peu de scientifiques. Et c'est dommage.
On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
La dernière question de Sonam, qui est élève ingénieur, va exactement dans le même sens que la précédente. Il se demande pourquoi il y a une absence de prise en compte de la science par les politiques, alors qu'ils prétendent tous s'en réclamer. Parce que dans leur discours, dans le discours des politiques, c'est vrai qu'on les entend toujours parler de statistiques, de données, d'études.
Et c'est incroyable quand on voit les hommes politiques qui connaissent absolument rien à la physique quantique, qui parlent en permanence de l'ordinateur quantique. C'est tout à fait stupéfiant. Donc il y a une culture scientifique, je crois qu'on peut dire catastrophique, dans le monde politique. Ils s'en vantent souvent. Alors, est-ce que les scientifiques sont coupables ? Certainement. Certainement, ils ne font peut-être pas les efforts suffisants pour expliquer mieux ce qu'ils font et à quoi ça peut servir et comment ils peuvent interagir. Ça a été caricatural aussi pendant le Covid. On a eu cette longue période où la population et les hommes politiques en particulier avaient le plus grand mal à comprendre que la science n'est pas là pour résoudre les problèmes du jour au lendemain et qu'il y a des situations parfois où il faut mettre de l'eau dans son vin. Il y a des situations où on ne comprend pas tout, où on ne peut pas tout dire oui ou non. Ça a été très compliqué. Et nous sommes sortis, nous, scientifiques, de cet épisode Covid avec un problème, c'est que la population, en général, pense que les scientifiques ne remplissent pas leur rôle. Et pourtant, ils le remplissent, enfin, me semble-t-il. Donc c'est à nous de relever le défi. Il ne faut pas dire c'est la faute aux politiques, c'est aussi la faute aux scientifiques.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite.
J'avais une dernière question. Je pense, en fait, après tout ce que vous venez de dire, à la récente affaire du plomb. Comment vous la voyez, cette affaire ? Est-ce que les scientifiques ont une responsabilité ? Est-ce que, dans le manque d'informations qui a circulé ?
Je crois que c'est un bon exemple, cette loi du plomb, parce que les scientifiques avaient une opinion, mais cette opinion, sur beaucoup d'aspects, consistait à dire on n'a pas les informations complètes. Et puis, il faut aussi expliquer que les scientifiques comprennent ce que ça veut dire un risque. Et si on dit... il y a un risque de 1 sur 1 million, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut l'interdire ? Ça, c'est le rôle du politique. Donc le scientifique, il est là pour informer le politique d'un risque, éventuellement de le mesurer, de le quantifier, et le politique doit prendre sa décision en bonne conscience, mais pour ça, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il apprenne ce qu'est une probabilité, par exemple. Et il faut bien comprendre que le politique, il a aussi cette responsabilité de faire des choix entre des situations qui peuvent être néfastes des deux côtés, quoi. Donc c'est très compliqué. Je crois que les scientifiques en l'occurrence, ont joué leur rôle, ils ont informé, et le politique n'a pas trop écouté les scientifiques.
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, De tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme est...
Vous avez entendu la célèbre Java des bombes atomiques par Boris Vian, bien sûr, 1955.
En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Merci beaucoup, Étienne Gis. À la semaine prochaine.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.